La FIMOC, Kejako. Federación Interregional de Medias Usitas, la FIMOC fa l'uligan entre mantuns medias. Radio País, Radio Lengodoc, La Semmano, Lo Journalet, et tabé Radio Usitagne. Tout est amasso per descubrir en lengo nostro l'actualitat d'aquí et la del monde. Un programme d'escambis realizat amb l'ajuda, entre autres, de las regions Aquitagne et Mietzun Pyrénées.
Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Poupoupidou.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons en ce vendredi 11 octobre sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Claire-Lise Marguier. Bonjour Claire-Lise. Avec qui nous allons parler de son nouveau roman intitulé Les noces clandestines, publié aux éditions du Rouergue. Des noces bien singulières. Nous allons le découvrir ensemble juste après la page info. Pour vous signaler tout d'abord que ce week-end, à partir même d'aujourd'hui jusqu'à dimanche 13 octobre, a lieu dans notre ville rose le 5e Festival international des littératures policières. C'est Toulouse Polar du Sud. Donc des rencontres avec des auteurs venus d'ici et d'ailleurs, de nombreux auteurs d'ailleurs, de noirs bien entendu. Des rencontres, comme je le disais, des lectures, tout le programme sur www.toulouse.fr. -polar au pluriel -du-sud.com. Il pourrait retirer un peu les tirets, ça serait peut-être plus simple. Enfin, donc c'est ce week-end à Toulouse. Ensuite, la deuxième conférence de Sandrine Foller, peintre-sculpteur, et Hélène Dufaux, auteur que vous connaissez ici, les auteurs de Page à Page, aura lieu mercredi 16 octobre à 20h à l'espace Bonnefoy, 4 rue du Faubourg Bonnefoy à Toulouse, sur le thème cette fois-ci du corps. L'entrée est libre et je vous donne le numéro de téléphone pour tout renseignement au cas où, 05 67 73 83 60. Ensuite, l'atelier de lecture de poésie mensuelle qui a lieu à la médiathèque José Cabanis aura lieu samedi 19 octobre de 10h30 à 12h30 au troisième étage au petit auditorium. Il est animé par Blandine Poney. Il est gratuit, mais il est nécessaire de réserver pour une question de place au 05 62 27 45 69. Et puis, la dernière petite info. Pour vendredi 25 octobre, je vous l'annonce en avance parce que là aussi il faut réserver pour une question de place. Donc vendredi 25 octobre à 20h à l'espace Paul-Éluard, 2 rue du Pré Vicinal à Cugnot, aura lieu les lettres musicales. Ce sont des extraits de des lectures d'extraits du roman de Frédéric Martin, le vase où meurt cette verveine, et puis mis en musique par la musicienne chanteuse Marie Cigale. Donc c'est un bon moment à perspective et je vous donne le numéro de téléphone comme je vous le disais pour réserver pour une question de place uniquement, 05 61 76 88 90.
Page à page, Claire Ambille.
Voilà, alors je me tourne vers mon invitée, Claire-Lise Marguier, qui était venue nous parler de son premier roman, et bien c'était il y a 2 ans à peu près, en 2011.
Oui, j'ai du mal à me souvenir, mais...
Et oui, il est sorti en 2011, oui, c'était le... Voilà, donc vous aviez dû venir dans l'année. Mm-hmm. Alors c'était Le faire ou mourir, un livre jeunesse publié au Rouergue également, mais dans la collection Dos à dos.
C'est ça.
Voilà, pour la jeunesse. Donc un livre fort également, comme celui-ci, Les noces clandestines, dont on va parler aujourd'hui, qui lui est publié aux éditions du Rouergue également, mais dans la collection La Brune, c'est-à-dire littérature générale.
Voilà.
ça s'adresse à tout public. Enfin, voilà, les ados peuvent le lire aussi, hein,
oui,
ça n'empêche pas. Hein, mais voilà, c'est plus dans la littérature générale. Voilà. Alors, c'est évidemment, moi, c'est un roman qui m'a beaucoup plu. Ce qui m'a frappé en premier, c'est l'écriture, la beauté de l'écriture, la beauté du style. Moi, je me suis régalée, rien qu'au niveau, bon, l'histoire, bien sûr, mais rien qu'au niveau du style.
Oui, j'avais envie un petit peu de couper avec le livre précédent qui était...
Bon, qui était bien écrit aussi, hein, c'est parce
oui,
que je...
Oui, il y avait moins de vocabulaire, que... c'était plus dans du parler, du journal intime, donc c'était...
Oui, parce que c'était, voilà, c'était des jeunes, enfin c'était voilà, adressé aux jeunes, et puis ça parlait de jeunes aussi, donc...
Exactement, donc c'était plus du parler, et là j'avais envie de me faire plaisir avec des jolis mots, des jolies phrases, et des
c'est
belles
réussi.
Images.
C'est très réussi.
Merci.
Oui, vraiment, c'est vraiment très agréable, de bout en bout, jusqu'à la dernière page. Et puis alors, donc, c'était vraiment écrit à la première personne du singulier. Et vous vous êtes mis dans la peau d'un homme, puisque c'est le narrateur, voilà, c'est un homme qui raconte.
Oui, c'est plus facile
histoire.
Pour moi, ça m'évite d'entendre mon entourage demander si c'est du vécu.
Ah oui, oui, là voilà. C'est sûr que
là,
on
c'est
peut
pas du vécu
oui,
du tout.
Non. Voilà. C'est de la pure fiction.
Fiction, tout à fait.
Voilà. Même si on peut trouver certains, comment dire...
Oui, on peut trouver des rapports avec
oui, des rapports avec,
tout à fait.
De
oui,
la, avec la réalité.
Oui, tout à fait.
Mais bon, voilà, on se doute bien que ce n'est pas dans votre réalité.
Non, je n'ai pas de cave.
Proche. Déjà, vous n'avez pas de cave. Bon. Et donc, c'est un huis clos assez étrange, hein, on va le voir. Une histoire surprenante, une relation singulière entre deux hommes, mais qui, en dehors de toute homosexualité, et en dehors, bien sûr, de toute perversité, et en dehors aussi de faits divers, X ou Y, des plus sordides. C'est une relation bien décrite, moi, que j'ai beaucoup aimée dans la narration, hein, bien analysée. Puis c'est un roman un peu... en plusieurs actes, comme un peu comme au théâtre, et qui se déroule au fil des saisons, hein, sur un an à peu près.
Sur toute une année, oui.
Sur toute une année, mm-hmm. Donc on a voilà, c'est un peu rythmé par l'arrivée, la fin d'une saison et le début d'une autre.
Oui,
et
c'est puis, un petit peu l'occasion de parler de la lumière, des changements de saison.
Oui,
de
bah oui, oui, parce que enfermé dans une cave, c'est vrai que c'est...
Oui, c'était un peu pesant, donc il fallait ouvrir un
voilà.
petit peu sur l'extérieur. Et
tout à fait,
ouais,
c'est une bonne idée. Et puis donc, en plusieurs actes, hein, parce qu'il y a, on va le voir, plusieurs parties et on ne pourra pas tout dévoiler à nos auditeurs pour laisser le suspense, mais la dernière partie est un peu, on va dire, une enquête, hein, on va le voir, et on ne le dévoilera pas, mais il y a un dernier acte, voilà, qui part de l'enquête et jusqu'à la fin du livre. Donc vraiment un livre complet, complexe, on va dire. Alors le résumé, on va en parler un peu ensemble jusqu'à, je vous dis, voilà, jusqu'à le début de l'enquête pour laisser le suspense. Alors, c'est dans une ville du sud-ouest qui n'est pas citée, mais comme vous le disiez hors antenne
voilà,
tout à l'heure,
facilement.
Qu'on devine facilement parce qu'il y a un métro. Donc, c'est vrai qu'une ville du sud-ouest qui a un métro, il n'y en a
pas
36.
Beaucoup, oui.
Donc, ça pourrait être tout à fait Toulouse, notre ville. Alors, un homme qui n'est pas cité, enfin qui n'est pas nommé, il n'a pas de nom, c'est le narrateur. Il parle première personne du singulier, et qui, la quarantaine, qui est professeur d'histoire dans un collège et qui vit dans la maison de sa grand-mère, bonne maman comme il l'appelle, et sa grand-mère est en train de mourir en fait.
Voilà.
Et pour s'occuper, en attendant que la mort vienne prendre bonne maman, il décide de ranger la maison, de faire un grand nettoyage de printemps, de jeter les choses qu'on accumule, etc. Et il décide d'aménager la cave de la maison, en une petite chambre avec un petit cabinet de toilette, une chambre qui peint tout en rouge, voilà, avec un lit, une table, chaise, enfin voilà, une petite chambre pour voilà, et qui, chose importante, qui est invisible. Cette chambre est invisible de l'intérieur de la maison grâce à un système astucieux d'étagères escamotables.
Exactement,
enfin, voilà. Donc, il n'a pas envie qu'on découvre quand même cette petite pièce secrète qu'il est en train de faire.
Voilà. Au début, c'est un petit peu ambigu. C'est
oui.
Sans volonté de nuire.
Oui, tout à fait. Mmh. Oui, oui. C'est voilà, il a envie de voilà d'installer cette petite chambre et puis
un petit refuge.
Et puis, eh bien, bonne maman s'en va, voilà, elle meurt. Et on apprend, et c'est là qu'on apprend la douloureuse histoire du narrateur, quand même.
Oui,
hein.
Il n'y a pas une histoire facile.
Hein.
Oui,
sa maman qui s'est suicidée à sa naissance à 17 ans, juste après sa naissance, voilà, quand elle avait 17 ans. Lui, on ne sait pas trop, son père, on ne sait pas trop qui c'est, mais on devine que ça pourrait être son grand-père. Donc, la chose vraiment affreuse. Et puis donc, bien sûr, il est élevé par sa grand-mère, hein, forcément, qui est devenue veuve, elle aussi, enfin, qui est devenue veuve. Et donc, c'est pour ça que cette maison est importante aussi. La maison a de l'importance.
Oui, oui, elle est un petit peu...
Parce que c'est toute son histoire aussi. Ouais. C'est là où il a vécu depuis toujours. Et puis donc, je disais donc, et c'est ça, oui, voilà, donc... Et puis donc, après la mort de sa grand-mère, c'est à ce moment-là, un facteur déclenchant sûrement, il se retrouve seul dans cette grande maison après le décès de bonne maman. Et il décide d'installer, d'accueillir quelqu'un dans cette petite chambre rouge qu'il a aménagée. Alors, on va peut-être lire la quatrième de couverture, en fait, c'est la première page du roman. Et je pense que pour donner une idée de la suite, on va lire la quatrième de couverture. La séquestration n'avait pas été préméditée, tout au moins au début. Pour dire vrai, tout ce qui m'y a conduit est un enchaînement de hasards. Quand vous auriez cru à ma volonté de nuire ou à une part de perversité, vous vous seriez fourvoyé. Je n'ai aucunement l'intention de vous détromper, mais je peux vous raconter. Donc voilà, on sent que le narrateur, voilà, il veut bien raconter l'histoire, mais il ne veut pas qu'on y voit du tout de... Comment dire de...
Non, il veut se défendre un peu aussi.
Oui, se défendre aussi, c'est sûr. Mais voilà, il ne veut pas qu'on y voit de choses négatives. Enfin, non. Trop négatives.
Oui, puisque de son côté, de toute façon, ce n'est pas du tout négatif.
Ah ben oui, lui, vu de son côté, de lui, tout à fait, tout à fait. Alors donc, l'idée devient une obsession, devient vite une obsession hein, d'accueillir quelqu'un dans cette chambre. Et donc, il va se mettre en quête de quelqu'un, de chercher quelqu'un
qui va convenir à la chambre rouge.
Alors, quand il fait beau, il fait les rues de son quartier. Donc, justement, comme il habite à côté d'une bouche de métro, c'est pratique.
C'est pratique, il voit beaucoup de monde défiler.
Voilà. Et quand il fait pas beau, il fait les files d'attente des supermarchés et les galeries marchandes.
Et oui, et vous avez peut-être pu le croiser d'ailleurs, et on ne le sait pas.
Eh oui, bah, il n'a pas jeté son dévolu sur moi, en tout cas.
Ni sur moi non plus.
Puisque nous sommes là aujourd'hui. Et puis, donc, le profil qu'il recherche, c'est déjà, il a éliminé les enfants et les personnes âgées.
Oui, qui sont un petit peu trop égoïstes et puis pas oui. Assez belles, peut-être.
Oui, puis qui peut-être, voilà, un enfant, on se mettra à sa recherche voilà, de
ça
suite. Voilà, ça soulèverait beaucoup de choses. Donc voilà, il a éliminé ces deux profils. Et puis, donc, il cherche plutôt une jeune femme. Alors bon, il y a bien la sœur d'un collègue sur lequel il jette un peu son dévolu, mais rapidement, parce que finalement, il s'aperçoit qu'elle est pas assez... Elle est trop molle.
Oui, elle est trop molle. Elle n'a pas assez de caractère. Elle ne lui renvoie pas ce qu'il a envie de voir en face.
Voilà. Donc ça ne colle pas.
Ça tombe
pas
à l'eau.
Voilà. Et puis un jour, le hasard, alors est-ce que c'est le hasard ou le rendez-vous ? Parce que comme dit le poète, il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Alors voilà, rendez-vous ou hasard, un jour, sur son devant de maison, enfin voilà, son palier, un SDF, enfin d'apparence, hein, voilà, c'est Joël.
Joël, c'est la rencontre.
C'est la rencontre. Alors, c'est un beau jeune homme blond avec des cheveux bouclés.
Un peu angélique, un peu sous la vieille couverture sale. Il est voilà. Très beau, mais il ne devine pas tout.
Oui, voilà, il va le découvrir au fur et à mesure.
Petit,
voilà,
parce mesure,
que,
oui.
Voilà, et donc, il l'invite à manger une omelette chez lui. Parce que bon, bah, forcément, il a faim, le garçon.
À le faire rentrer.
Et il arrive à le faire rentrer. Et puis là, il le drogue avec un somnifère pour pouvoir l'installer dans la chambre rouge. Parce que c'était quand même le but.
Oui.
Donc, ça, c'est le début. On a déjà bien en main le début de la situation. Et alors, à son réveil, on se dit, bon, ben, le garçon, en plus, il est jeune et tout,
rebeller.
Il va tout casser. Il va faire quelque chose. Et bien, pas du tout. Comme on ne pense pas du tout qu'il... Il ne se rebelle pas. Il ne se rebelle pas contre cette situation parce qu'il se retrouve quand même privé de liberté dans une chambre inconnue, avec un homme inconnu, dont il ne connaît absolument pas les dessins.
Rien du tout.
Donc ça, voilà, il doit avoir peur, hein, mais
j'imagine,
il ne se rebelle
oui.
pas.
Non.
Ah ouais. Et donc au fur et à mesure, enfin hein, au fil des jours, hein, l'homme voilà découvre bien ça, voilà ses cheveux, il le trouve beau, il admire son esthétisme, hein,
oui, c'est
voilà,
une forme d'art, oui.
Comme une forme d'art,
oui.
Voilà, comme un tableau,
comme un tableau.
Voilà un tableau vivant,
peinture, oui.
Vivant. Et puis donc s'instaure peu à peu les rituels quotidiens. Alors le petit déjeuner pris en commun dans la chambre rouge, et puis la toilette de Joël qui est faite par l'homme, mais sans comment dire, il n'y a aucune C'est dénué de tout, voilà, c'est dénué de connotation sexuelle, tout à fait. Il le lave, voilà, pour le plaisir, comme un enfant, comme une mère laverait un enfant, voilà. Mmh. Et il admire ses courbes, il admire son corps, mais sans rien d'autre. Et puis donc, Joël ne dit rien, voilà.
Se laisse faire.
Alors Joël se met à lire après pour s'occuper, hein, parce qu'il faut s'occuper dans cette chambre. Et puis et il raconte ses lectures à l'homme, et donc il y a une sorte de vraiment de complicité qui s'installe entre eux. Alors l'homme, il va travailler, hein, il va au collège faire ses cours d'histoire, puis après il revient vite,
chez lui, voilà
préparer les petits repas pour s'en occuper comme on s'occuperait d'un enfant, mais
dans la clandestinité,
mais qui serait voilà en clandestin et puis enfermé dans entre quatre murs. Et puis donc l'homme est bercé par la voix de Joël quand celui-ci lui lit des passages. Donc ce sont des moments complices, mais qui au bout d'un moment ne suffisent plus à l'homme, qui a besoin d'autre chose, qui a besoin de la rébellion de Joël.
C'est ça, qui cherche une part de violence dans cette relation duel.
Elle est trop calme,
calme, oui.
Et donc un jour, Joël refuse de manger le repas qu'a préparé l'homme. Et alors là, l'homme se met en colère. Et donc il va y avoir de la violence. Et puis après la violence, il y aura le pardon,
voilà,
l'occasion d'une tendresse autorisée.
Oui, voilà, qui se serait pas autorisée sans les coups.
Sans avoir les coups et sans avoir le pardon après. Donc là, c'est un nouveau cap qui est franchi, une nouvelle.
C'est un petit peu une relation un peu sadomaso, mais sans le côté
sexuel. Voilà, sans le côté
éthéré,
sexuel.
Un peu platonique, oui.
Oui, c'est comme on console un enfant après l'avoir disputé.
Voilà,
un
petit peu une part de.
Sans les coups, bien sûr, parce que bon,
voilà. Jusque-là.
Oui, voilà. Mais là, c'est un rituel qui s'instaure, voilà. Un nouveau rituel qui s'instaure, voilà. La désobéissance de Joël, la colère et la violence de l'homme, et puis après le pardon réciproque et le réconfort dans les bras l'un de l'autre. Et c'est un rituel, voilà, qui va se poursuivre pendant quelques temps jusqu'à ce que Joël tombe malade.
Voilà.
Donc il va tomber malade. On se demande d'ailleurs comment le microbe a pu atterrir dans la chambre rouge, puisque l'homme n'est pas malade, mais Joël tombe malade.
Oui, voilà. Bon, il est passé par le soupirail.
Oui,
voilà.
tout à fait.
C'est peut-être juste l'isolement.
Oui, l'isolement, je pense. Ouais, bah,
de
oui, d'avoir moins de
malade,
pas
oui,
trop de lumière. Contact. Il y a un soupirail, mais ça donne moins de lumière et on est peut-être plus fragile, plus fragilisé.
Peut-être plus mental que physique.
Aussi,
finalement.
Ouais. Donc il tombe malade. Donc évidemment, l'homme le soigne lui-même, parce qu'il ne peut pas appeler de médecin. Et puis l'été arrive et avec lui, la langueur de Joël, il a du mal à se remettre de cette forte fièvre qu'il a eue. Et puis, il est moins dynamique, il ne lit plus. Enfin, il tombe un peu dans le...
Une petite phase de dépression, quand même.
Voilà, presque un an après,
après son
enfermement, on va dire, ça se comprend. Et puis, il est assez... Voilà, l'homme le compare à une poupée de chiffon. Il est présent physiquement, mais il n'a pas conscience du monde qui l'entoure. Il n'a plus conscience de l'homme.
Il est très
passif. Même quand il se coupe, il ne s'en aperçoit pas.
Voilà.
Donc, l'homme est terrifié de ce revirement de situation, de ce brutal changement, parce que,
il attend une réponse en face et il n'en a plus, quoi.
Il partageait quelque chose
et qui ne partage plus rien.
Même si c'était de la violence, même si c'était... Voilà, mais il partageait
quelque chose.
Et là, il n'y a
plus rien.
Alors, c'est là que le petit chat arrive.
Voilà, petit chat.
Petit chat. C'est Joël qui l'a appelé comme ça. C'est un chaton orphelin et malingre que l'homme ramène un jour à Joël et qui va faire revivre Joël. Ce petit compagnon à quatre pattes va faire revivre le jeune homme. Et donc, l'homme aussi, hein, parce qu'il est content de les voir jouer, de les voir dormir ensemble. Voilà, il est content et tout le monde est content.
Tout le monde est content.
Voilà. Et puis, il y a aussi la musique aussi qui arrive dans la petite chambre rouge avec
la lecture,
CD, radio, la lecture qui revient avec des commandes de Joël, de livres que l'homme prend plaisir à chercher,
parce que c'est pas toujours des inédits.
Pour voir le plaisir sur le visage de Joël. Pour lui, c'est important que Joël soit heureux, entre guillemets. Et donc,
petite vie quotidienne. Hein, de...
Oui, c'est comme un couple.
Comme un couple,
oui, ce que j'allais dire.
À l'autre, il y a des activités de la vie quotidienne et des partages quotidiens.
Oui, tout à fait. Et puis, bien sûr, jusqu'à ce fameux matin, donc tout se déroule, donc il retrouve une complicité avec le petit chat, et puis donc la musique et les lectures, et puis jusqu'à ce fameux matin où l'homme oublie de refermer la porte à clé.
Voilà, le drame de sa vie.
Et, voilà. Et évidemment, eh bien, quand il s'en aperçoit, c'est trop tard. Joël et le petit chat sont partis.
Ils sont partis tous les deux.
Alors là, c'est une nouvelle acte qui s'ouvre sur une période bien sombre pour l'homme, hein, parce qu'il a perdu son soleil.
Voilà,
hein, finalement.
Exactement.
Il a perdu son soleil.
Un deuxième deuil, un
oui.
Bon
de oui, sa grand-mère, bonne maman, maintenant Joël. Et donc, alors là, après cette période un peu sombre, il se décide de retrouver Joël. Donc, il se met à parcourir les rues entières, suivant un quadrillage pour essayer d'en louper
oui,
aucune.
C'est assez méthodique.
Assez méthodique, voilà. Et puis, il découvre le monde de la nuit, parce qu'évidemment, c'est plutôt la nuit qui fait ses recherches. Donc,
oui.
Il découvre tout un monde qu'il ne connaissait pas, finalement.
Ignorait, oui, tout à fait.
Avec les punks, leurs
voilà,
chiens.
Voilà, tous les gens qui vivent la nuit.
Voilà,
et qu'on ne rencontre pas le jour.
Tout à fait. Donc, il les rencontre la nuit. Et donc, mais il ne retrouve pas Joël.
Non.
Ça, on peut le dire. Et puis, donc, l'homme s'installe, décide de s'installer. Donc, il a une grande maison. Hein. Normalement, il a sa chambre. Et là, il s'installe dans la chambre rouge pour retrouver un peu de la trace de Joël, l'odeur de Joël dans le lit où il a dormi, pour être un peu plus proche de lui, finalement.
Oui, voilà, il ne fait pas le deuil. Donc, il reste au
voilà,
plus
donc
près
il reste
de,
au
de
plus
de Joël, de ce
voilà,
qui reste.
Au plus près de ce qui reste, voilà. Et un jour, il trouve, par hasard, caché derrière la commode de la petite chambre rouge, un petit papier plié. C'est la page d'un livre arraché et couvert d'une écriture, d'une écriture à l'encre verte. C'est Joël qui a écrit un petit mot, en fait, qu'il avait caché, où il dit qu'il n'est pas... il révèle qu'il ne mérite pas de vivre et qu'il a quelque chose de très lourd sur la conscience.
Voilà.
Et donc, l'homme se pose plein de questions et décide de mener l'enquête, en fait, quel est ce secret que porte Joël, finalement, pourquoi il en est arrivé, finalement, à être dans la rue, et pourquoi...
Ça expliquerait pourquoi il serait pas rebellé contre la séquestration.
Aussi, parce qu'il pensait peut-être mériter ce châtiment. Donc, il va chercher à découvrir l'histoire, finalement, de Joël. Et donc, ça, c'est là, on va dire, la dernière partie du livre où, on découvre
un petit peu le passé
de Joël et puis, donc, l'évolution. La suite des événements. Donc, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas dévoiler pour laisser le suspense à nos auditeurs. Mais voilà, donc c'est un livre très complexe. Très complexe.
Oui et non.
Oui et non.
pour moi, il n'était pas. J'ai écrit de manière assez linéaire et puis, comme je fais toujours en coupant les petits bouts par-ci par-là et en les organisant. Donc, il y a des fois des scènes qui auraient pu être échangées de place, se trouver plutôt au début, plutôt à la fin. Après, il y a une progression qui s'est faite naturellement.
Il y a une progression tout à fait. Quand je dis complexe, ça aborde
plusieurs thèmes, plusieurs sujets.
Thèmes.
Mais c'était vraiment une excuse pour le prétexte à raconter l'histoire des saisons, des lumières, des sentiments
et de
tout ce qui est non dit et ambigu. Voilà, c'était une façon de tout mettre dans une seule relation et de pouvoir tout caser, tout ce que j'avais envie de caser. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui apparaissent.
Oui, tout à fait. Oui, j'ai oublié de le dire, dans cette pièce, en fait, il parle peu
Il parle très peu, c'est beaucoup de non-dits, beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de sentiments.
D'émotions, et ça se ressent à la lecture.
De la part du narrateur, puisqu'il se fait quand même son film par rapport à Joël.
Il
y a plein de choses qui ne sont pas dites. C'est un petit peu le syndrome de Stockholm un peu magnifié.
Et nous, quand on le lit,
on en ressort un peu pareil. On n'a pas trop envie que le narrateur soit quand même inculpé pour séquestration. On a quand même une affection pour le narrateur.
C'est vrai qu'il y a un côté pervers
et illégal, mais d'un autre côté, il y a un côté qui est... On arrive à excuser ce côté-là. Voilà.
C'est un esthète. Enfin, je veux dire, il aime la beauté.
Voilà,
la
après,
beauté,
est-ce que ça a excusé le fait de séquestrer quelqu'un dans sa cave? Non, mais on est
pas,
quand même très partagé.
Quelque part, Joël était consentant. Donc,
oui, parce qu'il aurait pu se rebeller. En même temps, est-ce qu'il n'avait pas peur d'être...
Oui, voilà.
Il a peut-être eu peur de représailles.
Oui, tout à fait.
C'est un jeune homme, il est influençable, il a 18 ans, donc c'est un peu...
Oui, voilà.
Il y a quand même le rapport du plus fort, il est quand même là.
Non, mais c'est un très, 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 très bon roman. Les Noces clandestines de Claire-Lise Marguier aux éditions du Rouergue. Alors, d'où vous vient ces idées? D'où vous est venue cette idée de ce roman si singulier?
Alors, je suis facilement influencée par les faits divers et j'ai toujours envie de sortir du côté sordide du fait divers qu'on voit, dont on nous rebat les oreilles.
J'ai
toujours envie de retomber sur quelque chose qui puisse être très positif et très lumineux. Donc c'était un petit peu ce que j'avais envie de faire avec ce texte-là. Et surtout, j'avais envie de couper avec le premier texte qui a eu beaucoup d'influence sur moi et beaucoup de côtés positifs, mais qui avait aussi une grosse emprise sur moi. Voilà. Donc j'avais envie de couper un peu avec et de passer à autre chose, par un autre style. Après, les personnages, on peut y voir une similitude quand même. Hein. C'est toujours une relation de garçon. Il y a quand même beaucoup de sentiments.
Oui, c'est vrai. Je l'avais pas.
Je pense que je suis un petit peu dans ce...
Parce que c'est à une autre échelle, c'est sûr.
Voilà, c'est une autre dimension. C'est pas du tout la même chose. Bon. Ouais. Mais moi, je m'y retrouvais dans l'écriture quand même, où il y avait des sentiments qui refaisaient surface et qui étaient un petit peu semblables. Après, le style est tout à fait différent. Mais là, c'était...
Ah oui, bah, là, comme
c'est,
je l'ai dit,
c'était un vrai plaisir.
J'ai souligné la beauté du style de l'écriture dans ce huis clos étrange, donc avec cette relation ambiguë
et platonique,
qui
va loin, mais en même temps qui ne va pas si loin que ça.
Oui, parce que moi je l'associe beaucoup à l'émotion puis à l'attention qu'un parent peut porter à son enfant.
Oui, là c'était un petit peu l'idole dans le sanctuaire.
Oui,
hein, c'est
voilà,
ça,
oui, c'est ça, il idolâtrait Joël. Voilà, c'est pour ça que quand il est parti, il a perdu son
voilà,
soleil.
C'était un petit peu aussi faire le deuil de la grand-mère et c'était une
pas
sorte
se
de
sécurité
tout
seul,
un peu,
voilà. Alors j'imagine que deux romans, ça vous pousse à écrire un troisième quelque chose.
Bon, de toute façon, écrire, j'écris toujours. Après, voilà. Est-ce que ça va devenir des livres?
Il y en a un, en tout cas, le premier d'une trilogie l'année prochaine.
Voilà, normalement l'année prochaine, on n'est pas encore fixé, ni en date, ni parce qu'il y a quand même du travail dessus, mais ça serait plutôt, oui, dans la collection jeunesse, une collection qui va ouvrir là.
Au Rouergue,
toujours, voilà. Et on ne change pas une équipe qui gagne.
Exactement.
Quand les gens sont très sympas avec vous, on est obligé de continuer avec eux.
Merci à Adèle si elle nous écoute.
Voilà,
d'ailleurs,
ils prennent très grand soin de leurs auteurs. Et quand on va sur les salons, c'est vrai qu'on n'entend que du bien du Rouergue et des gens qui y travaillent.
Donc ça c'est en 2014, le premier tome d'une trilogie donc pour enfants, donc ça c'est pour enfants,
oui,
jeune enfant,
fait,
adolescent.
Honnêtement je ne me suis pas trop renseignée sur la question, hein, je laisse ça aux éditeurs et puis moi j'écris dans mon coin. Et puis
voilà,
après,
chacun son
travail.
Voilà, il me dit
ça va ou ça
voilà,
va pas.
Chacun
voilà.
Son travail,
reste,
vous écrivez et eux ils s'occupent de... Voilà, de... Donc j'aurai plaisir à vous recevoir de nouveau.
Mais j'aurai grand plaisir à revenir.
Sur Radio Occitanie. Donc je rappelle le titre, donc Les Noces Clandestines aux éditions du Rouergue par Claire Lise Marguier, un roman vraiment prenant que je vous recommande. Vous ne lâcherez qu'à la fin, qu'à la dernière page, parce qu'une fois qu'on a commencé, on a vraiment envie d'aller de voir l'évolution et d'aller jusqu'au bout. Alors on se retrouvera nous le vendredi 25 octobre à la même heure, à 15h sur Radio Occitanie. Je recevrai Claire Garalon. Ça fait beaucoup de Claire.
Ça
hein
fait beaucoup, oui.
Ah oui, là, le mois d'octobre,
c'est le mois des Claires.
Claire Garalon, donc qui est illustratrice et auteur jeunesse, et avec ses nouvelles créations donc pour nos pitchous. Et puis en attendant, donc on va se quitter comme Claire Lise est toujours fan de Nicolas Sirkis et du groupe Indochine. Voilà. On va se quitter donc sur une chanson, comme apparemment eh bien on a le temps comme il faut.
Parfait.
De l'écouter en entier, donc c'est
celle-là, c'était Anyway,
et c'est tiré du dernier album,
la
donc
City Parade, voilà.
Et donc,
on retrouve sur la tournée, la première ce soir.
Ah, on se donc le 12 novembre au Zénith, ouais. on y sera, Claire Lise aussi et son petit garçon pour son premier concert également. Voilà, merci beaucoup Claire Lise.
Merci beaucoup de m'avoir invitée.
Et puis
à une prochaine fois.
Et à Dissiat.
Tu ne m'aimes plus, tu ne m'aimes pas, tu ne veux plus de moi. Tu ne me vois plus, tu ne m'aimes pas, tu n'as plus besoin de moi. Oui, c'est la vie, si tu m'oublies, mais moi, je reste là. J'entends ton rire, j'entends ta voix, mais moi, je ne te vois pas.
comme un dieu aime les siens. Je t'aimerai comme un dieu, comme un chrétien envers son prochain. Oui, tu as besoin de penser à toi, moi je ne pense qu'à nous. Regardez le plafond, accrocher la corde et fermer la maison. Un soir je t'emmènerai chez moi, dans un manège en bois. Il sera beau et il y aura tout ce que tu y voudras. C'est un endroit où tu pourras tout faire, allongé sur mon bras. Tu détesteras tous les gens de mon âge, allongé sur mon bras. Tous les gens de mon monde.